Acte 19-20. Parce que j'aimerais laisser vraiment un temps pour l'adoration, la louange personnelle ensuite. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est le moment de l'action puissante de la parole du Seigneur. Parce que tout ce qui a été rappelé ici par Jérémie au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, tout cela s'est fait. C'est fait une fois pour toutes. Et si nous rappelons chaque année l'œuvre de Dieu à travers l'incarnation de son Fils, nous ne la reproduisons pas pour redémarrer à chaque fois un nouveau cycle. C'est une fois pour toutes que Jésus-Christ est venu, qu'il est né dans cette étable, qu'il a été célébré, adoré, vu des anges, glorifié, qu'il a vécu cette vie parfaite et qu'il est mort pour nous sur la croix et qu'il est ressuscité et qu'il est au ciel, c'est sa position actuelle. Jésus-Christ est glorifié. Et donc, il y a ce moment où nous le recevons, qui est le moment de notre conversion, de notre nouvelle naissance dans la foi en Jésus-Christ, afin d'entrer dans cette vie nouvelle. Et à partir de ce moment-là, nous ne revenons pas en arrière chaque année pour redire « Ben oui, je me redonne à toi ou je crois à nouveau en toi ». Non, c'est fait. C'est décidé, c'est engagé, le baptême est venu sceller notre conversion, notre foi en Jésus-Christ, et à partir de ce moment-là, c'est le temps de la croissance dans la foi. Et je dis avec ceux qui professent la même foi que le baptême, dans notre conviction, suit la foi, suit la réception de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous le pratiquons envers des adultes qui prennent personnellement l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Des adultes ou des jeunes, et parfois même assez jeunes. Quelqu'un peut être baptisé parce qu'il a vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ et qu'il engage sa vie sur cette foi. On engage sa vie sur cette foi au Seigneur Jésus et c'est le signe du baptême. Mais à partir de ce moment-là, donc, en quelque sorte, on déballe le cadeau. Et on en jouit pendant toute notre vie. Et il me venait à l'esprit tout à l'heure qu'au niveau des cadeaux actuels, voilà, il y a un grand cadeau qui est l'ordinateur. Lorsque quelqu'un voilà, a reçu un ordinateur et qu'il le met en fonction, voilà, il y a vraiment l'inauguration, là, la configuration initiale et tout cela. Et ensuite, eh ben, il y a la découverte de tous les programmes et tout vient s'ajouter et puis tout vient se compléter. Et voilà, on progresse et les informaticiens n'ont pas fini de progresser dans ce qui a été établi, acquis maintenant, définitivement, hein, le fonctionnement de base d'un ordinateur. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est le même principe. Nous avons reçu du Seigneur l'ensemble de tous les programmes de la foi. Et ensuite, à partir du moment où nous avons ouvert notre cœur et où l'Esprit s'est mis à l'œuvre en nous, eh bien, nous découvrons et nous activons toutes les œuvres que le Seigneur a préparées, toutes les révélations qu'il nous a préparées dans sa parole. Alors j'ai 4 versets à vous lire au sujet de la croissance. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. En fait, c'est un texte très dense, une pensée très dense de l'apôtre. Je relève, on peut dire, trois dimensions à ce texte. Premièrement, le fait de recevoir une nouvelle intelligence spirituelle, de progresser dans l'intelligence spirituelle. Deuxièmement, d'avoir des actions agréables à Dieu, que ça se traduise par des actions agréables à Dieu. Et troisièmement, recevoir aussi une force d'âme qui nous permette de faire face aux différentes épreuves. Donc, retenez cela, une nouvelle intelligence spirituelle ou une intelligence spirituelle qui se développe, des actions agréables à Dieu et une force d'âme. Tout cela donc par la connaissance de Dieu au centre. La connaissance intime et personnelle de Dieu. Croître dans la connaissance de Dieu. Deuxième verset, Éphésiens, ou série de versets, Éphésiens chapitre 4, versets 15 et 16. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ici, Christ nous est présenté comme le chef, la tête de l'Église, qui est son corps. Et donc, croître en Christ, c'est croître sous sa direction, son conseil, son influence, par la vérité professée dans l'amour. Si nous avons la vérité professée dans l'amour, nous allons croître, c'est-à-dire être dirigés de mieux en mieux par le chef de l'Église qui est Jésus-Christ. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il y a donc ici cette nécessité du lait spirituel, comme pour le nouveau-né, afin de croître pour le salut. Un lait de croissance sans salmonelle, pur, qui nous permette de bien nous développer en tant que nouveau-né en Christ. Nous ne nous nourrissons plus des travers et des vices de notre vieille nature, mais de l'esprit de bonté et de sainteté de Jésus-Christ. Et là, nous allons croître pour le salut. Et enfin, 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18, la conclusion, en fait, de la seconde épître de Pierre. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. La grâce, croître dans la grâce de Dieu. Face à l'égarement, à la puissance d'égarement qu'il y a dans ce monde. Et bien donc la grâce ici est présentée comme une puissance active, l'action de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans laquelle donc nous devons croître pour affronter la puissance d'égarement. Croître dans la grâce de Dieu nous permet de tenir ferme. Et il nous faut absolument croître dans cette puissance de la grâce de Dieu. Parce que le monde, de son côté, développe aussi sa puissance d'égarement. Et de plus en plus. C'est le principe même du monde que de développer une puissance d'égarement par rapport à Dieu. Parce que le monde est soumis à la puissance de Satan, de l'ennemi, qui veut sa propre gloire. Donc il aveugle l'intelligence des hommes et il y travaille, et il y travaille de mieux en mieux et de plus en plus. Lui aussi, il développe son programme à lui. Et donc, pour pouvoir faire face à cette augmentation de l'iniquité, à cette augmentation de l'esprit d'aveuglement, il faut progresser dans l'esprit de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas rester, on peut dire, dans le statu quo. Nous devons nous adapter spirituellement pour faire face aux nouvelles menaces, aux nouvelles invasions de l'iniquité. Et le Seigneur Jésus dit dans l'Évangile que ce sera terrible dans les temps de la fin. La puissance d'iniquité sera si grande qu'il y aura peu, qu'il y en aura peu qui résisteront. Donc, soyez pénétrés de cet esprit de progression dans la grâce de Dieu, de croissance spirituelle. Dans les quatre passages donc qui vous ont été lus, je reprends tout simplement connaître Dieu intimement. Être dirigé ensemble par le Christ, se tourner avec une impérieuse nécessité de recevoir ses vérités à lui et la puissance de son amour qui nous unit, et puis rechercher, ce qui est un autre aspect de cette puissance d'amour, donc l'action efficace de son esprit dans nos vies. Efficace de la charité divine dans nos cœurs. Être vraiment attaché à Dieu par son amour. Amour manifesté en Jésus-Christ, dont nous avons la preuve absolue. L'amour de Dieu est véritable, il est absolu, puisque son propre Fils a donné sa vie pour nous. Il n'y a aucune restriction à l'amour de Dieu pour nous. Nous pouvons lui faire totalement confiance. Et si nous restons dans cette vérité-là, celle du Fils de Dieu, eh bien, nous pourrons professer ensemble, être unis ensemble afin de croître et de résister à la puissance d'iniquité et d'égarement qu'il y a dans le monde. Amen.